par ces mots que s'ouvre le chapitre 2e de l'Évangile selon saint Matthieu. Le chapitre 1er a expliqué la manière dont Jésus allait naître. Une intervention de l'Esprit Saint fécondant le sein de la Vierge Marie pour faire en sorte que le Fils de Dieu puisse naître du sein de cette femme, de cette Vierge. Et puis, saint Matthieu commence son évangile avec cette grande généalogie qui inscrit cet enfant, ce nouveau-né, dans la ligne d'Abraham, de David, qui vient en quelque sorte honorer toutes les promesses qui étaient faites à Israël. Et quand on lit ce premier chapitre, on se trouve devant une interrogation. Comment faire connaître cette naissance? L'évangéliste Matthieu rapporte que, contrairement à Luc, ce ne sont pas des bergers, des anges qui viennent voir, ce sont des mages venus d'Orient. Alors, n'oublions pas que cet évangile, selon saint Matthieu, traditionnellement, est plutôt destiné à un public de chrétiens d'origine juive, donc qui est censé connaître ce que l'on appelle l'Ancien Testament et les promesses qui sont liées à cette alliance première. Et voilà que ce n'est pas du sein du peuple d'Israël que l'annonce va être faite. Elle va être faite par donc cette médiation étrange de mages qui viennent d'Orient, qui se sont mis en route parce qu'ils ont vu l'étoile de ce roi des Juifs qui vient de naître. Alors, c'est peut-être des astrologues, on n'en sait rien. Toujours est-il que là derrière, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut bien évidemment y voir la main de Dieu qui arrive à manifester à ses mages que quelque chose d'important est en train d'arriver. Et que ces mages, donc, vont répondre à cette invitation, se mettre en route. Avec la seule information, c'est le roi des Juifs qui vient de naître. Je pense que quand on est mage venu d'Orient, roi des Juifs, on va immédiatement à Jérusalem. C'est ce qu'ils font. Et évidemment, à Jérusalem, ils vont voir le roi, qui demande, lui, à tous ceux qui savent, où doit naître ce roi des Juifs. Voilà, on le sait, c'est Bethléem, c'est marqué dans l'Écriture, ils connaissent bien leur Écriture. Ils ne savaient pas la date à laquelle cela allait se passer. Et voilà, il semble bien que ça arrive. C'est intéressant parce que l'étoile qui va guider tout de suite après la venue, le passage à Jérusalem, ne les a pas guidés directement à Bethléem. Ils ont dû faire cette étape à Jérusalem. C'est donc par ce biais-là, tout ce que Jérusalem compte d'important sur le plan politique et religieux est mis au courant de cette naissance du roi des Juifs. Alors, on sait comment ça va se passer pour Hérode, comme réaction pour Hérode, comme réaction pour les grands prêtres. Toujours est-il que la nouvelle est diffusée. Et voilà les mages, une fois qu'ils savent où aller, ils vont. Ils redécouvrent que finalement l'étoile les guide, ça leur procure une grande joie. Et ils arrivent devant cette chose étonnante, le roi des Juifs qui est là, dans la simplicité, peut-être même un peu quelque chose de misérable, en regard de ce qu'on peut attendre de la naissance d'un roi. Et pourtant, ils font leur acte de vénération en offrant ce qu'ils ont de plus précieux, qu'ils ont apporté, l'or, l'encens et la myrrhe. Voilà donc comment, dès le début de l'évangile selon saint Matthieu, on se rend compte que c'est à d'autres qu'aux héritiers directs des promesses que vient la responsabilité d'annoncer et de faire connaître cette naissance du roi des Juifs. Ils ont fait leur travail, la nouvelle peut se répandre et ils repartent chez eux. Les textes qu'on a entendus nous expliquent bien que ce qui peut sembler complètement nouveau, complètement étrange, en fait, c'était prévisible, au sens où la parole de Dieu, si on la lisait bien, eh bien cette parole pouvait déjà éclairer cette démarche des mages qui viennent rencontrer le Fils de Dieu qui vient de naître dans le monde des hommes. Car reprendre ce que dit Isaïe à propos de Jérusalem, les nations viendront à ta lumière, les rois vers ta clarté, on apportera vers toi les présents, de l'or, etc. Tous les gens de Saba, pas forcément l'Orient, mais viendront apportant l'or et l'encens, annonçant les exploits du Seigneur. On voit bien que Matthieu, lorsqu'il rend compte de cet événement, entre guillemets, historique, fait référence à tous ces textes, comme aussi ce qu'on a entendu dans le psaume. Les rois de Tarsis apporteront des présents, les rois de Saba et de Séba feront leur offrande, tous les rois se prosterneront devant lui. Autrement dit, ce sont ces mages guidés, conduits par l'étoile et donc par Dieu, qui viennent attester que les promesses que la première alliance contenait sont en train de se réaliser dans la naissance du Sauveur. Et donc cette manifestation, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, cette épiphanie, cette manifestation du Seigneur, elle a besoin de ces mages, qui sont en quelque sorte le vecteur choisi par Dieu, pour révéler, selon l'Évangile, selon saint Matthieu, ce que cette naissance peut procurer comme joie. Voilà donc l'événement, tout simple, d'une manifestation. Saint Paul, dans l'extrait de la lettre que nous avons entendu aux Éphésiens, lui n'a pas connu la manifestation de Jésus dans son enfance, dans sa naissance, dans sa vie. La seule manifestation qu'il a rencontrée de Jésus, c'est cette fameuse vision de ressuscité à Damas. Mais saint Paul et la liturgie nous invitent à considérer ce qu'est notre manière d'accueillir cette épiphanie, cette manifestation. C'est la révélation d'un grand mystère, qui est particulièrement illustré dans ce que je viens de dire sur les mages choisis par Dieu pour venir révéler la naissance du Fils. Ce mystère, comme nous dit Paul, toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse en le Christ Jésus. Ça veut donc dire que Dieu qui se manifeste en Jésus et qui choisit des mages pour le manifester, pour faire épiphanie, nous invite toujours et sans cesse à prendre en considération la dimension universelle du salut. Le salut n'est plus simplement destiné, réservé à une élite, on pourrait dire, le peuple élu, non. En Jésus, le salut est universel. C'est dire, je le dis avec une aisance sans nom, lorsqu'il faut accepter, frères et sœurs, chers amis, que le salut est universel, qu'il ne connaît pas de frontières entre l'homme et la femme, entre les vieux et les jeunes, entre les gens de différentes cultures, de différentes races, de différentes nations, tout d'un coup, ça devient un peu moins évident. Parce que nous sommes structurés de telle manière que, à la fois personnellement, mais aussi culturellement, nous avons tous et chacun des limites. Et ces limites, dans ces limites, nous accueillons le Sauveur, le Salut, et c'est bien. Mais nous devrions faire cette expérience, tous et chacun, que la réception de la bonne nouvelle du salut, la réception de la manifestation du Christ Sauveur, élargit constamment nos propres limites. Si bien que toute personne, quelle que soit sa physionomie, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa couleur, quelle que soit la différence qu'il a avec moi, toute personne, puisque Jésus est venu pour sauver tous les hommes et tout homme, toute personne, de mon point de vue, doit être potentiellement bénéficiaire du salut. Et ça, encore une fois, c'est l'une des choses à la fois les plus belles de notre religion chrétienne, mais les plus difficiles. Parce que ça nous invite toujours à pousser davantage nos propres limites, nos propres catégories, nos propres certitudes, nos propres vérités. Autrement dit, comme les mages qui se sont déplacés, comme les autres différents pour venir révéler la vérité au peuple d'Israël, nous devrions être capables d'accueillir l'altérité, la différence, les autres qui viennent, parce qu'ils ont tous pour nous l'intérêt de nous faire découvrir et révéler un autre visage du Christ. Alors, ce sera ma prière en même temps peut-être mes vœux pour la paroisse, de se dire, laissons-nous déranger par ce qui est différent. Laissons-nous déranger par les personnes qui ne sont pas comme nous. Parce que dans ce dérangement, il y a peut-être la voix de Dieu qui se fait entendre, la main de Dieu qui agit et qui veut nous faire comprendre que notre rôle, c'est de se laisser justement déplacer pour aller toujours davantage vers la compréhension d'un Christ dont nous n'avons jamais fait le tour. Nous l'adorons et nous ne faisons que saisir toujours plus profondément son mystère et souvent, un des aspects du mystère du Christ nous est révélé par la différence que l'un ou l'autre, ami ou inconnu, vient nous révéler. C'est cela, la manière de vivre l'épiphanie. Puissions-nous être de ces mages qui se laissent interpeller